RKS, il est midi, c'est l'heure de votre émission Rien à foutre.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Et salut à tous, c'est Kevin, vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec aujourd'hui deux invités de qualité, hein, on n'en doute pas. Je reçois pour commencer par téléphone Kevin Meunier, le nouveau coach de Saint-Paul-de-Vars. Ce sera l'occasion avec lui de faire un point sur son parcours et les objectifs de cette saison. On recevra ensuite mon ami arbitre Ziad Benelhadj, vous le connaissez, il a été l'un des premiers à venir dans cette émission. Avec lui, on fera le point sur les nouvelles lois du jeu qui entrent en vigueur en ce début de saison. Mais avant tout ça, on va faire un rapide point sur les sujets qui font l'actualité du foot isérois. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
RKS, l'esprit grenoblois.
Et l'info qui a secoué un peu tout le monde hier, c'est le départ soudain de Manu Ribeiro qui était en poste à OFC Vallée de la Grèce depuis quelques mois maintenant. Il a donné sa démission, décision acceptée par le bureau qui nomme l'actuel directeur sportif Boubaker Bouchlaghem à sa place. On note également la belle victoire des hommes de Teddy Palermo et de Max Riondet, le président du FC Échirolles. La victoire 3-2 à Bourg, hein, c'est important en ce début de saison. Elle place les seniors 1 en tête de leur championnat après seulement deux matchs. Et quand on sait que c'est bien, c'est quand même bien super hein, de bien démarrer cette saison. En tout cas, nos clubs isérois font de la résistance dans cette poule. Parce qu'on peut noter également que la CC Ciné, avec son coach Mathieu Sciency, qui a également fait un bon match nul à JR, hein, contre 2-2 contre le FC Lyon, pardon. On note également Mathieu Sciency, que j'ai pas pu avoir au téléphone aujourd'hui, on a quand même une grosse pensée pour lui. Il note quand même une petite frustration, il sentait que l'équipe pouvait gagner ce match. Après, bon, il est quand même conscient que démarrer avec une victoire et un match nul dans cette poule qui, on le sait, est très relevée, en plus face à deux adversaires de qualité, il est quand même content et heureux de ce début de saison. Je vais vous donner aussi quelques scores comme ça, parce que ça semble quand même important. Les championnats ont bien démarré. En National 3, Bourgoin s'est imposé 3-1 face à Moulins. On a également la belle victoire du GF 38-2 contre Limonest 2-0. JR en Régional 2 a fait 0-0 à Montélimar. Saint-Marcelin s'est imposé 2-0 contre Valden. On a également la Tour Sainte-Claire qui s'est inclinée 4-2 face à Créaoust à domicile. Eben a fait 0-0 contre la réserve de Cessiné en Régional 3. Le Rachet a fait également 0-0 contre Chaponnet-Marennes. Que dire d'autre? Le GF 38-3 a fait 3-1 contre le Verso. La Vallée de la Grèce n'a pas joué contre Chambotte. Le match a été du coup reporté. Et la réserve des Échirolles a gagné 4-0 à domicile face à Fézin. Voilà pour quelques faits marquants de ce qui s'est passé le week-end dernier. Je reçois, sans transition, l'actuel coach de l'équipe de Saint-Paul-de-Vars, Kevin Meunier. Salut Kevin.
Salut Kevin.
Je crois que c'est une première dans cette émission Rien à foutre. On a deux Kevin dans cette émission.
C'est assez rare.
Voilà, c'est assez rare, mais c'est un si beau prénom.
Ouais, si on peut. Moi, ça me va.
Bon, tu m'étonnes. Moi aussi, je m'en suis jamais plus. Bon, on était à mon époque, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais voilà, moi j'ai 28 ans et quand j'étais à l'école, on était au moins 4 Kevin par classe, mais bon.
Bah, moi c'est pareil. Moi je suis de 95, ça a été le prénom le plus donné en 95. Donc,
ah ouais, tu vois, ouais, c'est ça. On remercie Kevin Costner, hein, sans doute, qui a été une grande source d'inspiration. Bon, Kevin, moi je suis content de t'avoir au téléphone. J'avais déjà reçu ton président, hein, Didier Franzin. Dans cette émission la saison dernière. Donc là, effectivement, bah, je me suis dit, bah, quitte à avoir quelqu'un de Saint-Paul-de-Vars, parce que c'est un club que j'apprécie beaucoup, je me suis dit, bon, autant essayer d'avoir justement ce coach de l'équipe Fagnon, parce qu'en plus, tu as été nouvellement nommé, hein, je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, parce que tu remplaces Gaëtan Zambito.
C'est exactement ça.
Voilà, donc Gaëtan Zambito qui est parti entraîner la réserve de la Vallée de la Grèce, il n'est pas parti très très loin. Toi, du coup, moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, savoir un petit peu d'où tu viens, comment tu es arrivé à être ce coach de cette équipe première.
Et ben, du coup, moi je m'appelle Kevin, donc j'ai 25 ans. Ouais. J'ai commencé mes débuts dans le foot donc, au club voisin, la Vallée de la Grèce, où je suis resté jusqu'à U13 de mémoire. Ouais. Ensuite, j'ai arrêté le foot une année et puis j'avais un groupe d'amis en fait qui relançait une catégorie U15 à Saint-Paul en fait à l'époque.
Ouais.
Et du coup, ça m'a tenté. Donc, j'ai voulu aller essayer dans ce petit club familial, comme on me l'avait vendu.
Ouais.
Et au final, ça a tout de suite accroché. J'avais déjà les coachs de l'époque, Gaëtan, je crois qu'il était dans le lot avec deux autres coachs.
Ouais.
Et ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, je me suis inscrit dans la durée à Saint-Paul. J'ai jamais quitté le club depuis ses débuts en U15.
D'accord.
Où j'ai fait donc U15, U17, U18. Et,
en tant que joueur, hein.
En tant que joueur, exactement. Ouais. En tant que joueur, et puis en parallèle, j'ai commencé très tôt le coaching, donc vers mes 16-17 ans.
D'accord.
Où j'ai coaché des petites catégories, donc j'ai commencé par U7, ensuite j'ai fait U9, ensuite je suis directement monté en U15, où je cherchais un peu plus la compétition, le foot à 11.
Ouais.
Pour monter en U17, coacher la même génération.
D'accord.
Voilà, après j'ai arrêté de coacher pendant un ou deux ans, juste faire joueur en senior à Saint-Paul, donc... sous les ordres de Gaëtan Zambito, justement.
Ouais.
Et puis, donc cette année, bah, justement, Gaëtan a voulu tenter l'expérience au club voisin. Et Didier avait demandé à 2-3 coachs par ici s'ils étaient intéressés. Finalement, il n'y avait pas forcément de réponse positive. Et il s'est tourné un peu vers moi. Et du coup, Maxence Calvi, parce qu'on est en binôme cette année.
Ouais, ouais.
Et donc c'est avec plaisir qu'on a accepté ça.
D'accord, ok. Ben c'est surprenant que très peu finalement de coachs se sont révélés intéressés par la proposition. Comment tu l'expliques, toi ?
Je sais pas. Après, c'est certainement dû à que Saint-Paul, ça fait un peu reculer de la ville peut-être. Et puis bon, le niveau il est certainement pas assez attractif pour un grand nombre d'entre eux. On reste quand même en Détroit et puis. Voilà, faudrait essayer de viser au moins un niveau au-dessus,
ouais.
Pour qu'on soit peut-être un peu plus attractif. Mais il faudra plus voir peut-être avec Didier pour tout ça. Mais je pense que la solution interne, en fait, a été priorisée aussi après les un ou deux refus qu'a subi Didier.
Ouais.
Et puis, naturellement, je pense qu'il a demandé à nous deux. Moi, ça faisait un moment que j'étais éducateur au club. Je connais un petit peu le club et le mode de fonctionnement. Et puis, en plus de ça, j'avais passé des diplômes dans les catégories jeunes. J'ai le CFF1, CFF2. Bon, c'est pas des diplômes de fou, mais c'est reconnu par la FEDE, on va dire.
Ouais.
Et puis voilà. Et puis je pense que Maxence et moi, on est assez légitimes pour ce poste-là. On passait envers tous les joueurs, que ce soit les plus vieux, les plus jeunes et puis les intermédiaires aussi. Et voilà, on rentre dans une constante. Et puis c'est la suite un peu de Gaëtan et puis de Dany aussi qui a pris du recul par rapport à l'année dernière.
D'accord, bah écoute, ça fait quand même pas mal d'informations déjà là pour commencer. Tu joues toujours du coup ?
Ouais, c'est un peu délicat pour le moment, on ne sait pas trop comment s'organiser avec Maxence. Là pour le moment on a plus signé entraîneur-joueur. Voilà, Didier est au courant, le club est au courant et puis les joueurs aussi.
Les deux sont. Toi et Maxence, vous êtes entraîneur-joueur.
Ouais, voilà, pour
d'accord.
Le moment. Après, ce qu'on essaye de faire pour le moment, c'est qu'il y en ait toujours un de nous deux qui reste sur le banc et du coup qui fasse que le coach le dimanche.
Ouais.
Mais il y en a pour le moment toujours un, pareil, qui joue le dimanche. Pour le moment, on fonctionne un petit peu comme ça parce qu'en toute humilité, je pense qu'on est deux joueurs encore importants pour l'effectif.
Ouais.
L'année dernière, pour la petite anecdote, j'étais capitaine de l'équipe première et puis Maxence était le vice-capitaine.
D'accord.
Donc,
okay.
Donc voilà, on essaye de se mettre petit à petit sur le banc,
ouais.
Si on peut et si l'effectif le permet. Et pour voilà, qu'on se concentre, au moins qu'un de nous deux se concentre que sur la tâche coaching. Quoi.
D'accord, ok. Et ça va, il n'y a pas eu de soucis, je sais pas, tu es devenu un peu du jour au lendemain le coach de tes coéquipiers, est-ce que ça se passe bien, il n'y a pas eu besoin de rétablir entre guillemets une hiérarchie?
Ça se passe très bien en fait, je pense que les joueurs ils ont compris qu'il fallait nous aider,
ouais.
Parce qu'on est on est des nouveaux en fait dans ce poste, surtout
ouais.
En catégorie senior,
ouais. Toi tu es jeune en plus, parce que tu as 25 ans. Maxence il a quel âge?
Maxence, il a 29 ans.
Ouais, d'accord. Ouais, ça reste quand même pour des coachs
un âge globalement jeune. Après, ouais. on a un effectif très jeune aussi en senior.
D'accord.
J'ai pas fait le calcul de la moyenne d'âge, mais on doit se retrouver à du 22, 23 ans.
Ah oui, quand même.
dans les week-ends, ouais, ça reste très jeune, hein, très jeune. Okay. Et du coup, bah, ça passe globalement, ça passe franchement très bien pour le moment.
Ouais.
Les joueurs, ils sont réceptifs, ils sont là pour travailler, ils sont là pour prendre du plaisir aussi. Mmh. Et voilà, pour qu'on fasse la plus belle saison possible en termes de plaisir et en termes de résultats aussi.
D'accord, bah justement, quand on va parler de cette saison maintenant, quel a été l'objectif qui vous a été fixé par Didier?
Bon, Didier et moi, on parle pas forcément d'objectifs en termes de résultats. Enfin, on n'a pas posé ça sur la table en me disant Kevin, tu dois finir deuxième à la fin de la saison. Mmh. C'est pas du tout comme ça que ça se passe à Saint-Paul.
D'accord.
Après, en discutant donc avec Didier, avec Dany qui est le nouveau directeur sportif du club, avec Maxence et puis avec Florian Gatignol qui est le coach de la réserve aussi.
Ouais.
On s'est mis comme résultat déjà de prendre du plaisir. Ça,
ouais,
c'est vraiment le leitmotiv du club. Et puis,
ouais,
en plus de ça, avoir des résultats.
Ouais.
Parce que ça fait maintenant 3-4 saisons que les résultats à Saint-Paul, c'est un peu en dents de scie. L'année dernière, on finit avant-dernier du championnat Détroit. C'était une saison très, très médiocre. Et donc, voilà, on s'est dit en tout cas qu'on ne voulait absolument pas refaire une saison de ce même acabit.
D'accord.
Surtout au vu de l'effectif qu'on a, qui, je pense, est de qualité.
D'accord.
Malgré cette poule de Détroit qui est très relevée, quoi.
Ok, bon, bah écoute.
Si on peut mettre un objectif sur la table, c'est voilà, de jouer, on est tous des compétiteurs, de jouer le plus haut possible, de prendre les matchs un par un et puis de voir où on arrive au niveau de la trêve et puis du coup en fin de championnat. Mais c'est vraiment le plaisir qui prime surtout, quoi.
D'accord. Mais t'as bien raison, il faut garder cette notion de plaisir. Moi, je n'arrête pas de le dire, mais ça ne reste qu'un jeu. Le football, donc il faut garder effectivement cette dimension de plaisir et il faut que ça reste effectivement, comme tu l'as dit, le leitmotiv de ce club. Et peut-être que bah, il faut rien s'interdire non plus aussi, hein, si vous êtes bien placé et en position pour jouer la montée.
C'est exactement ça en fait.
Ouais, ouais.
On ne s'interdit rien et on voit où on sera dans quelques mois. On prend les matchs un par un, mais je pense qu'au niveau où on joue, surtout en Détroit, voilà, on est loin d'être en ligue. Et puis, je pense que le club n'a pas les moyens d'être à ce niveau-là, pour le moment en tout cas. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment la notion de plaisir. C'est que les mecs, ils viennent à l'entraînement pour défoncer, pour prendre du plaisir. Et puis, voilà, qu'ils ressortent de l'entraînement avec la banane en se disant, on a fait un super bon entraînement, on a bien travaillé, on est prêt pour ce week-end. Et puis, les résultats, ils vont aller en fonction de ça aussi. Naturellement.
Ouais. Bah ouais, bah t'as bien raison en tout cas de le souligner. Pour moi, c'est un club qui m'est fort sympathique, ce club de Saint-Paul-de-Vars, parce que c'est reste un club à taille humaine qui a des valeurs qui moi me parlent en tout cas, qui est un petit peu un club qui fait partie de ces rares clubs un peu à contre-courant de ce qui se fait un petit peu maintenant beaucoup dans le foot amateur et qui est un petit peu dommage, je trouve. Où on commence à retrouver un peu des mentalités qu'on voit un peu dans le foot professionnel, avec des joueurs qui viennent, il faut une carotte maintenant pour convaincre tel joueur de venir jouer, il faut presque le supplier,
ouais,
faut donner un peu une prime de match, il faut lui confier un projet, je trouve ça très compliqué. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on voit d'ailleurs ça beaucoup dans les équipes de jeunes maintenant. Moi je l'ai vécu, hein, un jeune de 17 ans, même pas 17 ans, 15 ans, 16 ans, qui rentre en U17, qui a un bon niveau et qui vient me dire moi je veux bien venir, mais bon, par contre, bon, ça joue en ligue, ça joue pas en ligue, c'est quoi le projet,
ouais,
est-ce que l'effectif il est de qualité, on n'est pas le GF, quoi. T'as envie de dire, moi je suis très choqué par ce type de discours là et ça m'inquiète beaucoup. Mais heureusement qu'il y a des clubs comme le vôtre pour prôner encore les vraies valeurs du foot amateur. Moi, en tout cas, je soutiendrai et c'est pour ça que je vous mets aussi en lumière dans cette émission, parce que bah, il faut que ces clubs là ils existent et qu'ils soient entendus en tout cas.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, ça passe aussi par une bonne gestion. Et puis, bon, tu connais très bien Didier. Mais, Et puis, Dany et Gaëtan qui étaient dans le cœur du projet, si on peut dire, depuis de nombreuses années. Mais c'est vraiment un club qui est super bien géré. où les éducateurs, un par catégorie globalement, est diplômé aussi. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on essaye d'inculquer, notamment les valeurs du club, donc esprit correct, ambiance familiale chez nous, et puis tout en restant dans la compétition, comme je te disais juste avant. Donc bien. Je pense que ça passe par une bonne gestion aussi, tout ça.
C'est exactement ça. Il faut que quelqu'un mène la barque bien correctement, et c'est le cas de Didier. Moi, je voulais te poser une question un petit peu, on va dire, légère sur le club de Saint-Paul-de-Vars, parce que tu sais, moi, je connais très, très bien Melvin, est mon co-animateur, qui est aussi sur le RKS Food Time Show, qui est mon co-animateur et qui est aussi un petit peu mon remplaçant pour cette émission. Alors, il m'a vanté ses qualités de gardien. Il est si bon que ça, Melvin ?
Voilà, là. Alors Melvin, il est plus beau en gardien que ses qualités. Voilà, je le branche un petit peu. Non, mais Melvin, si je dois retenir une chose de Melvin en tant que gardien, c'était sa combinaison unie.
Ah oui.
Qui avait fait fureur dans le vestiaire et qui nous avait bien fait rire.
C'est quoi? Vas-y, balance, parce que on va le revoir du coup lundi là pour l'émission RKS Food Time Show.
Ah, tu lui demanderas, c'est une combinaison, je pense, des années 80 du football, quoi. Hein.
Ah ouais.
Concrètement, comme une combinaison.
Mais il est tellement old school, ce Melvin. Hein. Et, moi, il me fait rire avec ses références du siècle dernier.
Ouais. J'adore. Mais trêve de plaisanterie, Melvin, ouais, il nous avait vraiment très bien dépanné l'année dernière et même il y a 2 ans de mémoire,
ouais.
Dans la cage. Alors il s'entraînait pas forcément, mais voilà, il répondait présent le week-end quand il était dispo, et puis ça, c'était vraiment agréable pour le club de Saint-Paul, parce qu'on était un peu en pénurie de gardiens pendant un petit moment,
ouais.
Donc il a bien dépanné, et puis ouais, ses causeries un petit peu d'avant match, toujours à encourager les joueurs, voilà, c'était agréable de jouer avec Melvin, quoi.
Ouais, mais j'en doute pas, moi je l'aime.
Ils sont un ambianceur un petit peu de...
Je l'aime beaucoup, mon Melvin. On lui fait une grosse bise parce que je sais qu'il nous écoute. On va passer aux questions-réponses. Voilà, c'est le petit jeu qu'on fait un petit peu en fin d'interview. Je te pose une série de questions qui concernent plutôt tes goûts footballistiques, et puis tu essaies de me répondre rapidement pour qu'on ait une réponse la plus sincère possible.
Pas de souci.
Allez, c'est parti. Alors, quel est ton club de cœur et pourquoi ?
Ouais, alors mon club de cœur, c'est vite vu, moi, c'est le Grand FC Barcelone.
Ah, tu devais bien t'entendre avec Melvin alors, parce que c'est son club aussi, ouais. Avec Lyon, mais ouais. Il aime beaucoup le Barça aussi.
Effectivement, non, moi, c'est vraiment Barcelone, c'était pour ce qu'il proposait en termes de jeu.
Ouais.
Et puis, de ce qu'on voit de l'extérieur, Messi, un club, plus qu'une famille, on est loin d'être Messi, un club à Saint-Paul, hein, mais je veux dire, plus qu'une famille, on pourrait le reprendre aussi.
Bon, tu sais, je pense que c'est surtout une philosophie, c'est pas tant une question de palmarès ou de dimension, hein. Ouais. Quand tu dis que tu es plus qu'un club, c'est oui, je pense qu'un club comme Saint-Paul, c'est plus qu'un club, c'est un esprit, c'est une famille, il y a des valeurs, c'est aussi ça, mais est-ce qu'un club, je pense.
Oui, aussi. Ah, mais c'est vraiment ça. Et puis, ouais, non, moi, ça m'avait fait rêver. J'étais encore ado. Je crois que c'est 2009 où ils font le...
Ouais, le quintuplé, là, ou le sextuplé, je sais pas comment tu dis ça.
Le sextuplé, ouais, c'est voilà. Et moi, ça me faisait rêver. Et puis, cette notion de jeu, de passe courte, de jeu en triangle sous l'air Guardiola, c'était juste magnifique.
Ah, ouais, c'est sûr, ça nous a fait rêver. Et du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu du Barça ? Parce que ça a été un été un peu spécial pour les supporters du Barça, quand même.
Ouais, très compliqué. Je pense que, on parlait de la bonne gestion de Saint-Paul-de-Vars, et je pense tout le contraire de la gestion de
Barça. On va pas y aller par quatre chemins, Kevin. On envoie Didier Franzin à remplacer Bartomeu, et tu verras, le club, il va tourner. Hein.
je pense qu'on n'en serait pas loin. Ouais.
sans doute. Ouais, mais Didier, il partira jamais, hein, même pour tout l'or du monde de Saint-Paul-de-Vars, on le sait.
Ouais, même pour Barcelone, il pourrait hésiter, Didier.
Ah, il pourrait hésiter. Je poserai la question, alors. Bon, ouais, donc ça devait être compliqué, quand même.
Ouais, c'était un été un peu bizarre. Après, ils ont viré Suarez. Pourquoi pas ? Pour le moment, il n'y a pas de remplaçant, même si je pense que Coman, il veut remplacer Griezmann à la pointe de l'attaque.
Ouais.
Mais après, le gros souci du Barça, ça reste derrière. Et pour le moment, la charnière reste la même. Jordi Alba est toujours ici, c'est assez vieux derrière, en fait. Et puis, je pense que Gérard Piqué a fait son temps aussi, même si ça reste un joueur, je pense que dans le vestiaire, et puis même en termes de jeu, globalement, ça reste quand même encore un super joueur.
C'est tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, que ce soit pour Gérard Piqué, Jordi Alba, ou même Busquets, ou même Messi maintenant. Mmh. Qui sont les vieux tauliers de cette équipe. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de les garder plutôt que de les virer. On peut les garder, mais effectivement, il faut pouvoir renouveler l'effectif et il faut pouvoir donner la chance aux joueurs qui arrivent. Alors, c'est compliqué de mettre un Piqué, un Busquets ou un Jordi Alba sur le banc, mais il faut aussi quelque part penser à la suite parce que les joueurs vont passer et le Barça, s'il est vraiment mesqué un club, il va rester, quoi. Donc il faut aussi faire comprendre Gérard Piqué tu restes dans le club, tu feras quelques matchs mais il faut qu'on mette quelqu'un de plus jeune sur le terrain, quoi. Donc
et de la concurrence aussi,
et qui est une concurrence, en fait. C'est ça.
Parce que je pense que il y a pas forcément de concurrence à ce poste pour le moment, même si on entend 2-3 jeunes issus de la Masia pointer leur bout du nez, mais pour le moment ça reste peut-être un peu trop faible même pour détrôner Piqué, et c'est ça qui est dommage, en fait.
Ouais, c'est vrai, exactement. On va passer aux prochaines questions. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance?
Je vais pas être très original. Moi, mon enfance, je pense que c'était Ronaldinho.
Ouais.
Que j'avais découvert, c'était l'époque du Paris Saint-Germain. Et puis après, donc bien sûr, l'époque du Barça, j'avais adoré ce joueur juste pour ce qu'il dégageait sur le terrain, qui se faisait absolument toujours plaisir, qui avait toujours la banane, qui était quelqu'un de fêtard, et puis en plus de ça, Ballon d'Or. Donc, excellent joueur, Ronaldinho. Et puis plus maintenant, dans l'originalité toujours, un grand fan de Messi.
D'accord, ok. Donc, team Messi plutôt que team CR7, hein.
Ouais, moi totalement, même si je respecte vraiment le travail de Ronaldo et surtout ce qu'il fait encore maintenant. Je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 35 ans.
Ouais.
Et ce qu'il arrive encore à faire, ça reste du haut vol.
Ouais, je suis. Bon, oui, c'est deux. Je le dis à chaque fois dans cette émission quand je pose cette question, mais c'est la vérité. Hein. C'est deux des plus grands joueurs qu'on ait vus sur les terrains de foot. Et toi, tu penses quoi de l'attitude de Messi, notamment, qui a fait un petit peu jaser, partira pas. Comment t'as vécu tout ça, toi? Moi, ça m'intéresse quand même de savoir ce que les vrais supporters du Barça pensent de ça.
En fait. Moi, je pense qu'il faut que l'institution elle prenne le dessus sur les joueurs, même si c'est Lionel Messi. Et après, je pense que Messi, il était dans une position où il voulait mettre les points sur les i. Il voulait peut-être un peu déstabiliser aussi Bartomeu, dans le sens où ce qu'il faisait, c'était absolument pas normal. Et c'était une très mauvaise gestion. Je pense que Messi voulait vraiment faire passer un message. Mmh. Après, je pense que le club aurait dû quand même le sanctionner, parce que ça donne le droit aussi à tout, en fait, à tout comportement, même les plus mauvais. Donc c'est un peu dommage qu'il soit comporté comme ça, mais si, surtout que je pensais que ça allait vraiment être la fin, hein. Moi, quand il était annoncé à Manchester City,
tu voyais partir.
Vraiment qu'il allait partir, malheureusement. Ah oui, oui, je voyais vraiment partir. Mais d'un côté, j'aurais été content qu'il parte, parce que justement, il aurait prouvé ailleurs que c'est un immense joueur, et puis je suis sûr qu'il aurait tout... Il aurait tout fracassé aussi en Première Ligue.
Ouais.
Et ça aurait pu faire taire certains supporters aussi. Et après, je suis bien sûr content qu'il reste à Barcelone malgré tout ce qu'il ait dit sur l'institution.
Après, moi, tu vois, le débat Messi contre CR7, oui, mais CR7, il a prouvé ailleurs. Oui, mais Messi, il n'a pas prouvé ailleurs. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, pour s'assurer que Messi est un grand joueur, de voir Messi jouer avec un autre maillot? Avec ce que Messi a accompli, avec le palmarès qu'il a gagné, j'ai envie de dire, il a presque rien à prouver. On est convaincu que ça, il restera un des plus grands joueurs et qu'il aura marqué son époque, bien évidemment. Moi, j'en ai un peu marre de, je te le dis, hein, de cette guéguerre Ronaldo-Messi. Je trouve que c'est pas vraiment cohérent de les mettre tous les deux en comparaison et de comparer les deux joueurs à chaque fois. Après, sur ce qui s'est passé cet été par rapport à Messi, moi je suis content de ce que tu dis, parce qu'effectivement il faut replacer l'institution au centre. Il a le droit d'avoir des mécontentements avec Bartomeu, Bon, je vais quand même rétablir une vérité, c'est que Bartomeu, peut-être qu'il ne peut pas se piffrer aujourd'hui, il n'empêche que Bartomeu lui a presque donné les pleins pouvoirs au club. Hein. Faut savoir aussi un petit peu remettre les choses dans le contexte et se souvenir aussi que le Barça lui a quand même tout donné. Il a bien rendu, hein, mais il lui a quand même, depuis de son plus jeune âge, le Barça a été là et l'a aidé et l'a propulsé au niveau auquel il est aujourd'hui. Tu peux être pas d'accord avec ta direction, tu peux quand même par contre avoir un peu plus de classe et dire bon bah pas envoyer un fax déjà et dire annoncer déjà à ton président que tu n'es pas d'accord et que tu t'en vas. Et puis après je trouve que ça a été fait un petit peu maladroitement de la part de Messi, c'est dommage, mais bon effectivement il reste et puis voilà.
Toute la médiatisation aussi qui va là-dedans, donc c'est vrai que ça a été dommage, je suis d'accord avec toi.
Voilà, bon, je vais passer à une question un petit peu, à la question piège, un petit peu comme je l'appelle, c'est une nouveauté de cette année, c'est un tu préfères gagner en ayant été nul, c'est-à-dire vraiment un hold-up parfait, ou alors perdre, mais en ayant le sentiment d'avoir fait ce que tu devais faire sur le terrain, je parle en tant que coach, hein, que tes joueurs ont fait ce qu'il fallait et que tu as été même meilleur que ton adversaire.
Ouais, c'est question délicate, mais je vais retenir la gagne.
Tu vas retenir la gagne, comme Deschamps, peu importe.
Ouais, exactement. Voilà. Non, je vais retenir la gagne, parce qu'au final, ce qu'on retient globalement, ça reste les 3 points.
Ouais.
Alors si on a été nul toute la saison et qu'on gagne 1-0 tous nos matchs à l'arraché à la 90e et qu'on est champion et qu'on monte en D2 l'année prochaine, bah
tu signes.
Je prends.
Ouais.
Exactement.
Bah écoute, c'est en tout cas ce qu'on te souhaite. Mais tu sais que on commence à me le dire, mais réellement le passage à rien à foutre te garantit une victoire dans le week-end qui suit. Hein.
Ça, c'est parfait.
Je te le dis. Tu joues contre qui ce dimanche?
On reçoit la réserve de la Murette dimanche.
La réserve de la Murette, bah voilà. Bah, tu sais que déjà que t'as rien besoin de faire, tu mettras qui tu veux, tu vas gagner.
Bon, nickel. Les 3 premiers points de la saison.
Non, mais c'est vrai parce que tous les coachs m'envoient un message où les présidents qui passent à l'émission, tu sais, bah je leur dis bah bonne chance pour le match de ce week-end et tout. Et ils m'envoient un message, on a gagné, tu nous as porté bonheur. Tu vois, Mathieu Ciancy, depuis qu'il vient dans cette émission-là, bon, malheureusement, il n'était pas là en début d'émission pour faire son petit bilan, mais à chaque fois qu'il vient parler de son équipe, il gagne le match d'après. Je crois qu'il a perdu, je crois, 1 ou 2 matchs depuis qu'il passe dans l'émission. Et là, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu le président des Chirols, Max Riondé, qui vient, qui me dit « Bon, on a un match un peu compliqué, là, contre Bourg-Péronas, je ne sais pas si on va… » Et puis finalement, tu vois, il gagne 3-2. Donc, tu vois, c'est magnifique, quoi. Et puis, c'est pareil, j'ai Mehdi Ben Larache aussi, qui est venu, entraîneur de l'Olympique Salès Rodiac, qui m'a envoyé un message aussi. Bah, « On a gagné après mon passage à l'émission, etc. » Donc, tu vois.
Eh bien, écoute, je t'envoie un message dimanche soir et puis je te dis si ça a marché ou pas.
Voilà, super. Donc, c'est à quelle heure et où le match?
C'est à 15h à Saint-Paul-de-Vars.
Eh bien, voilà, 15h Saint-Paul-de-Vars, le match entre justement l'équipe entraînée par Kevin Meunier face à la réserve de la Murette. Résultat à suivre en espérant que le porte-bonheur rien à foutre fonctionne encore. En tout cas, moi, je vais faire tout ce qui est entièrement possible pour que le club de Saint-Paul-de-Vars continue de nous offrir de belles choses dans le football. Moi, je souhaite bien évidemment tout le meilleur à toi, Kevin, pour cette nouvelle expérience. En tout cas, j'apprécie le courage que tu as fait preuve en acceptant un poste difficile à ton âge, même si c'est vrai que tu partages aussi, tu l'as dit, avec Maxence Calvi, mais c'est quand même pas évident. Jeune, en plus de ça, tu es encore un petit peu joueur. Même si l'équipe, entre guillemets, ne peut être considérée que en D3, c'est quand même un sacré challenge que tu as essayé de relever. Hein.
C'est un petit challenge, comme tu dis. Après, c'est un peu ma maison aussi, Saint-Paul-de-Vars, dont je connais quasiment tout le monde et notamment les joueurs. Je pense que les joueurs, comme je t'avais dit tout à l'heure, ils ont vraiment adhéré au fait que Maxence et moi reprenons la une et que Flo Gastineau reprend la 2 aussi, puisque Flo était joueur aussi l'année dernière et puis est encore plus jeune que moi.
Ouais.
Il a 23 ans.
Ouais.
Donc voilà, non, c'est un ensemble de choses. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Les joueurs sont assidus à l'entraînement, ils font preuve de sérieux et puis ils nous aident un petit peu. Voilà, si un jour je suis pas là à l'entraînement, il y a peut-être un joueur qui prendra un bout de la séance. Voilà, pour le moment, ça marche, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien.
Bon, bah, parfait. Donc, en tout cas, c'est
courageux, comme tu dis. Voilà, j'ai comment dire, J'ai la confiance de Didier, de Dany, des gens qui sont au club depuis longtemps. Et puis, on fonctionne en binôme, donc c'est toujours un peu plus facile.
Bah c'est génial. En tout cas, moi, comme je te l'ai dit, je vous souhaite le meilleur. Tu me communiques bien le résultat du match contre la Murette. Et puis, je te souhaite un très, très bon week-end, mon Kevin. À bientôt.
Eh ben merci Kevin, à bientôt et puis merci pour ce que tu fais, c'est sympa de mettre en lumière
c'est normal, allez à bientôt, salut.
Allez, au revoir, salut.
Bon, c'était un vrai plaisir d'avoir Kevin Meunier, l'entraîneur le co-entraîneur de l'US Saint-Paul de Vars dans cette émission. On va marquer une petite pause. J'ai mon invité qui est là, Ziad Benelhadj. Il est dans les starting blocks. Il s'échauffe avant de venir au micro de Rien à Foot pour nous parler un petit peu de ces nouvelles lois du jeu pour cette nouvelle saison qui vient de démarrer. Hein. Donc on va un peu éclaircir quelques zones d'ombre avec lui. Donc restez avec nous. Je vous passe un petit Destiny's Child. Say My Name sur RKS.
Kinda shady, ain't calling me baby. Why the sudden change?
Say my name
if no one is around you. Say baby I love you if you ain't running games.
Say my name
you acting kinda shady, ain't calling me baby. Better say my name.
Any other day I would call, you would say baby how's your day, but today it ain't the same. Every other word is a huh, yeah okay. At the crib with another lady. If you took it there, first of all, let me say I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you said that I am a stupid thing.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
Nobody's holding you back from me.
'Cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two. Believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name.
I know you say that I am a stupid thing.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
If nobody's holding you back from me,
'cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me, don't you?
Et c'était la chanson Destiny's Child, Say My Name sur RKS. J'espère que vous êtes toujours là et que vous passez un bon moment avec nous comme d'habitude. Mon deuxième invité est arrivé, Ziad Benelhadj. Salut Ziad.
Bonjour Kevin.
Comment tu vas mon petit Ziad?
Ben écoute, ça va très bien. La saison a déjà débuté,
oui.
Notamment avec le tour préliminaire de Coupe de France. On a eu les différents tours.
Oui.
J'ai arbitré récemment ton club de cœur de la Vallée de la Grèce.
Oui.
c'est pas un bon souvenir pour eux.
Oui.
Mais c'est la loterie de la Coupe de France.
Oui, c'est
ça,
exactement.
Et dimanche, j'ai fait mon premier match en D1 qui s'appelle l'Excellence dans le passé.
Oui.
Un bon derby de la banlieue de Grenoble.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait eu deux, trois actions un petit peu Litigieuse.
Alors, il y en a eu une notamment où je me suis trompé.
Ouais.
Donc, il faut avoir le courage de dire qu'on s'est trompé.
Exactement, exactement.
Et on a eu, en fait, depuis quelques années, on a la chance au niveau de l'Isère d'avoir un journaliste de terrain, Gazon Isère, qui nous apporte de magnifiques reportages. Mmh. Et je me suis rendu compte, en arrivant à mon domicile, que je m'étais trompé sur le premier but de Villeneuve, qui est lourd de conséquences pour la suite du match. Mais voilà, c'est une erreur de jugement de ma part.
Oui, on peut tous en faire. Enfin, je veux dire, après, on sait que le rôle d'arbitre, c'est compliqué. Là, tu vois l'émission après, tu vois l'action après avec le ralenti. C'est vrai que le ralenti, c'est facile après. Même des fois, avec le ralenti, on ne sait pas trop. Mais bon, à vitesse réelle, en fonction de comment tu es positionné sur le terrain, c'est compliqué à voir quand même.
En fait, sur l'action, je fais un mauvais choix. Parce qu'en fait, il y a un duel entre l'attaquant et Salim, que je salue au passage, le joueur de JR. Je fais un mauvais choix, en fait. Je décide de partir sur la gauche pour ne pas les gêner, parce qu'ils arrivent sur la droite dans la phase de réparation. Et là, je suis gêné par des joueurs et je ne vois pas qu'en fait, l'attaquant de Villeneuve tire par l'épaule Salim. Et le problème, c'est que Salim, sur l'action, il en rajoute énormément. Et alors, sur l'action, je lui mets un carton jaune, non pas sur la faute... Et il est victime, en l'occurrence, parce qu'il vient contester de façon véhémente. Mais en seconde période, il prend un deuxième jaune qui fait pénalty pour Villeneuve. Et à ce moment-là du match, ils sont encore dans le coup, JR, parce qu'ils gagnent 2-1. Et à la fin du match, je siffle un pénalty pour JR qui leur a permis d'égaliser 3 partout. Ce qui te donne un petit peu 2-1 pour JR, ensuite 2 partout. Et finalement, ils loupent le pénalty. Bon, ça aurait fait 3 partout à l'issue du match. Et là, le fait que JR perde, ça a fait, comme tu as pu voir sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut reconnaître que je me suis trompé.
Non, mais bon, écoute, ça
c'est une erreur de jugement.
Exactement. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive. Mais en tout cas, tu sais pourquoi j'apprécie que tu viennes dans cette émission, Zied. Parce que déjà, tu es un arbitre accessible. Tu reconnais aussi les choses, tu défends tes choix. C'est quelque chose qui est appréciable parce qu'on sait que c'est compliqué. On l'avait déjà dit quand tu étais venu lors de la première, la deuxième émission de Rien à foutre. Tu étais venu un peu nous parler du rôle de l'arbitre. C'est compliqué pour les arbitres de venir s'exprimer, que ce soit.
Alors, comme je te l'avais dit l'autre jour, nous on arbitre au niveau amateur. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit peu une lassitude pour discuter avec la presse, ce qui est différent lorsqu'on est un arbitre de premier plan. Mais moi, je pense que pour l'intérêt du sport et du football en général, parce que c'est un sport qui est vachement médiatisé, il faut qu'on soit accessible, comme tu l'as dit précédemment. C'est-à-dire, alors, je t'en parle aujourd'hui, parce que j'ai 20 ans d'arbitrage, 17 ans au niveau régional. Donc, c'est vrai que l'arbitre qui va commencer cette année l'arbitrage, à tenir le discours que je suis en train de te tenir, ça va être compliqué. Parce que autour d'un événement sportif, il y a quand même de la pression, de la tension. Et moi, c'est vrai que désormais, j'arrive à échanger avec les éducateurs, avec les clubs, avec les joueurs. Et c'est vrai qu'aussi, si on peut parler de notoriété départementale, c'est vrai que les clubs, les joueurs, je les ai arbitrés de nombreuses fois, comme par exemple Salim. Qui est un ancien joueur de l'ABI quand l'ABI était au plus haut niveau départemental. Aujourd'hui, il est à JR. Et c'est vrai que malgré que je le connais dans le cadre de nos activités respectives, pour autant, je n'ai pas sifflé faute pour lui. Parce que dans mon jugement et de la façon dont j'ai appréhendé l'action, j'ai considéré qu'il n'y avait pas faute. Mais... il m'en veut pas, parce que comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, il parle d'erreurs humaines, et c'est tout à son honneur. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu un joueur accessible, parce qu'il sait que je suis un joueur accessible, et immédiatement, j'ai dit sur les réseaux sociaux que je me suis trompé, et j'ai été salué par des collègues arbitres, par des présidents de clubs, par des joueurs, et ça m'a fait spécialement plaisir. Alors c'est pas pour autant que j'attendais... j'aurais préféré ne pas faire l'erreur, mais après je me dis qu'on n'est qu'à la première journée de championnat, il y en a encore quelques-unes de journées, et l'entraîneur de JR, il m'a dit quelque chose à la fin qui m'a fait rire, il m'a dit si on met le pénalty que tu nous siffles à la fin, on n'en aurait peut-être pas fait tout un plat. Mmh. Mais nous, on loupe des fautes, on loupe des touches,
voilà,
des coups francs
c'est ça.
De, sur un match qui sont 20 fois plus importantes que oui. l'erreur que tu as pu faire. Donc voilà, ouais. c'est l'entraîneur de GR, j'ai connu quand il était éducateur pardon, de l'UOP
ouais.
à Saint-Martin-d'Hers.
C'est qui, c'est Gaëtan que tu as eu?
Oui.
Ouais, Gaëtan Meka. Mmh.
Non, c'est pas Gaëtan Meka.
Ah, c'est pas Gaëtan Meka?
Non.
D'accord.
C'est, Manuel, non, je me souviens
d'accord.
plus de son nom,
okay.
mais c'est une figure locale.
Ouais,
hein.
D'accord, ok. Mmh.
Voilà, d'accord. donc ce que je pouvais te dire.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Dans le contexte actuel.
Dans le contexte actuel, c'est vrai que ça, le contexte s'y prêtait bien. Moi, Gilles, je voulais que tu viennes parce que je veux que tu viennes un petit peu nous expliquer un petit peu les nouveautés. Alors, tu m'as dit qu'il n'y a pas de révolution particulière aujourd'hui dans les lois du jeu, mais il y a souvent des petites améliorations ou rectifications sur les lois du jeu qui sont apportées. Moi, j'aimerais bien déjà du coup qu'on fasse une petite liste que tu as sous les yeux des nouvelles évolutions. Donc, est-ce que tu peux nous parler des premières évolutions?
Alors, pour expliquer un petit oui. peu le contexte, en fait, si vous voulez, il y a le board qui tous les ans apporte des modifications au niveau des lois du jeu, du football notamment.
Oui.
Comme on a pu le voir ces dernières années, désormais sur un 6 mètres, le ballon n'est pas obligé de sortir de,
oui.
De la surface de réparation. À l'Euro, on avait vu que pour le coup d'envoi, désormais, on pouvait le faire en arrière.
Oui.
Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est le board qui prend cette décision-là.
Mm-hmm.
Alors cette année... la plus grosse modification, et surtout elle est très médiatisée,
oui.
c'est les fameuses fautes de main.
Oui, on a vu beaucoup de cas le week-end dernier. Là, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Zied. Bon, le monde professionnel et le monde amateur, c'est toujours compliqué de faire des comparaisons, parce que notamment maintenant, dans le monde professionnel, il y a la VAR.
Mm.
Mais justement, avec ces histoires de main, parce que maintenant, en fait, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, surtout. Moi, ce que j'ai aperçu, c'est que maintenant, on a défini un périmètre, effectivement, où il y avait automatiquement main. Donc c'était en dessous de l'épaule, je crois, à partir du dessous de l'épaule jusqu'à la main, c'est considéré comme une main. Et il n'y a plus de notion d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à savoir si le ballon, si le joueur a touché délibérément le ballon de la main, mais à partir du moment où la main est décollée du corps et que ça touche, on considère que c'est main et pénalty.
Alors je vais m'en aller. Hein. je sais même pas. Alors Kevin, je sais même pas pourquoi tu m'as invité, parce que tout a été dit.
Ouais.
Et je t'invite à la prochaine formation d'arbitrage. Parce qu'on cherche énormément d'arbitres et je me dis que tu as encore un bel avenir devant toi.
Merci.
Donc effectivement, alors, je ne peux rien rajouter sur ce que tu as dit.
Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cette règle? Parce que finalement, on nous a bassiné pendant des années avec l'intentionnalité. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est juste ou pas? Parce que,
alors moi, je trouve que le fait de mettre un cadre,
oui.
ça permet aux téléspectateurs, quand on parle du monde professionnel, et nos spectateurs du dimanche,
oui.
qui sont tous des arbitres,
oui.
ça permet que désormais, lorsqu'il y a un cadre, lorsqu'il y a des règles, ça permet qu'il n'y a plus d'ambiguïté.
C'est vrai, je suis d'accord
Alors,
avec toi.
Alors, ça, c'est la première chose. Et comme tu l'as dit précédemment, désormais, l'épaule, ce n'est pas la main.
Mmh.
Et tout ce qui est en dessous de l'épaule,
c'est main.
C'est main.
Mmh.
Donc ça, c'est désormais... même sur si vous imprimez sur internet les modifications des lois du jeu, il y a même un petit bonhomme
oui.
où c'est expliqué.
D'accord.
Ensuite, comme tu l'as dit précédemment, désormais une main accidentelle commise par un joueur attaquant ou un coéquipier, parce que ça peut être un coéquipier, n'est pas pénalisée si elle survient immédiatement avant un but ou à une occasion de but manifeste. Donc désormais, c'est clair, net et précis. À nous de l'appliquer.
Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire, tu m'excuseras. C'est-à-dire que moi, je suis attaquant, je suis face au but, je touche le ballon de la main avant, je tire, je marque, il n'y a pas main?
Alors, c'est marqué noir sur blanc, une
D'accord.
main accidentelle.
Ouais, ouais, accidentelle, ok.
Donc, commise par un joueur en attaque.
D'accord.
Ou en coéquipier. N'est pénalisée que si elle survient immédiatement avant un but ou une occasion de but manifeste.
Elle est pénalisée si...
Voilà.
D'accord.
En
okay.
fait, si, souvent, on voyait, lorsqu'un attaquant contrôlait le ballon,
ouais.
et ben en fait, s'il touchait le ballon de la main,
ouais.
ben parfois, si l'arbitre considérait que s'il n'y avait pas main, on laissait le but accordé.
D'accord.
Là, désormais,
Il sera refusé.
Exactement.
D'accord, ok, ça marche.
C'est parce qu'elle survient immédiatement avant un but ou une occasion manifeste
d'accord.
de but.
Donc même si c'est accidentel.
Même si c'est accidentel.
D'accord, ben comme ça c'est clair, tu vois, c'est important quand même de dire aux gens qui nous écoutent, hein, qui sont sur les terrains, soit sur la touche, soit sur en train de jouer le week-end, c'est important quand
alors
même
de
le savoir ça.
C'est exactement ça Kevin, alors ça c'est plutôt pour la partie attaquante, c'est-à-dire oui. pour l'attaquant, mais oui. ce qu'on discutait du bonhomme précédemment,
oui.
c'est plutôt pour le défenseur dans ouais. ce cas-là, ouais. c'est-à-dire parce que à quel moment on se rend compte d'un pénalty. Parce que lorsque c'est un attaquant, c'est un CFD,
ouais.
mais lorsque c'est un défenseur, ça devient un penalty.
Ouais.
Parce que on parle pas des mains dans la ligne médiane,
oui.
où on parle pas des mains qui
oui,
sont au milieu
vrai.
Du terrain.
C'est
on
vrai.
Parle exclusivement des mains
dans la surface de réparation.
Qu'ont une répercussion directe sur le score du match.
Ouais.
Comme moi, par exemple dimanche où je siffle pas faute pour Salim, il y a but derrière.
Oui.
Si j'avais pas sifflé cette faute dans le rond central, mais personne n'en aurait parlé.
Oui.
Et parce que les événements de jeu, c'est exclusivement dans la phase de réparation, c'est pour ça qu'on en parle.
D'accord, mais c'est quand même super important qu'on puisse en parler et qu'on puisse échanger là-dessus, Ziad. Mais en tout cas, je te remercie pour ces précisions par rapport aux mains dans la surface. Du coup, on a parlé du coup de la situation de l'attaquant, de la situation du coup du défenseur. Moi, j'aurais bien ton avis sur quelque chose qui m'a personnellement choqué moi sur ce week-end. Donc, ça s'est passé en Espagne, le match Betis Real. Je ne sais pas si tu as vu les images.
Honnêtement, non.
D'accord.
Mais je peux te donner mon point de vue si tu veux.
Bah, je te décris la situation parce que c'est quand même particulier. Je crois qu'il y a 2-2 à ce moment-là du match. Le Betis joue déjà 10 contre 11 avec une expulsion un petit peu polémique, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a une action de jeu à la 82e minute. Le Real est dans la surface de réparation. Je crois que c'est Benzema qui est à la lutte avec un défenseur. C'est une lutte un peu épaule contre épaule. Dans le duel, Benzema pousse un petit peu le défenseur et le défenseur, en tombant, touche le ballon de la main, mais de manière totalement accidentelle. Et si Benzema ne l'avait pas poussé, sans doute qu'il n'aurait jamais touché le ballon de la main. On siffle penalty pour Real. Le Real transforme le penalty 3-2.
Alors, moi, je n'ai pas vu l'action, pour ouais. être honnête avec toi,
ouais.
Parce que ça devait être dimanche soir.
Ouais, c'est
je regardais, ça. J'étais en train de regarder Reims, Paris Saint-Germain.
Ouais.
alors, pour être honnête avec toi, décrit comme tu me l'as décrit, Benzema pousse le défenseur, déjà on aurait sifflé un coup franc direct pour le défenseur et le problème il aurait été réglé.
Ouais.
Et si, je dis encore une fois si l'arbitre ne siffle pas, c'est que pour lui il n'y a pas faute.
Ouais.
Mais si le défenseur en tombant touche le ballon, ça, je pense que ça a dû changer la direction du ballon.
Oui, oui.
Et donc forcément, ça a permis à Benzema de ne pas marquer. Donc l'arbitre qui siffle penalty, pour moi, c'est logique.
D'accord. Donc en plus, ce qu'on juge, c'est pas vraiment la main, c'est plutôt de savoir si Benzema a fait délibérément tomber le défenseur ou si c'était juste dans le duel, le défenseur a perdu l'équilibre et du coup a changé la direction
si,
du ballon.
Alors moi, je me dis que. Alors en Espagne, je ne sais pas s'ils ont la VAR.
Ouais, si, ils l'ont.
Mais alors, elle a été
utilisée d'ailleurs.
Ce qui me laisse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils l'ont utilisée, c'est que l'arbitre. Alors je ne sais pas s'il s'est déplacé pour aller voir lui-même.
Si, il s'est déplacé.
Donc s'il s'est déplacé de lui-même, c'est que pour lui, le duel entre Benzema et le défenseur, il n'y a pas faute.
D'accord.
Et le fait que le défenseur, après, touche le ballon de la main, il considère que là, ce n'est pas l'épaule et c'est concrètement la main. Et
oui, penalty. D'accord, ok.
Alors après, tu m'as dit précédemment que c'était en fin de match.
Ouais.
Donc c'est pour ça que ça fait tout de suite polémique parce que.
Oui, ça permet au Real de gagner du coup sur la fin du match. Quoi.
Mm. Ouais, donc tu vois, moi, voilà mon point de vue en ce qui concerne cette action.
Ok.
Alors après, on est d'accord, encore une fois. C'est le Real.
Oui, oui, bien sûr. Mais ça m'intéresse ton avis parce que.
Si ça avait été le Betis contre une équipe.
Grenade,
j'ai vu que Valence s'est fait accrocher par une autre équipe un partout chez elle.
Oui.
Je connaissais même pas ce club, je ne savais même pas qu'il existait. Donc tu vois, si ça avait été Real contre. Le Betis contre cette équipe-là,
ouais.
Je pense que personne n'en aurait parlé.
C'est vrai.
Alors tu me diras, si ça avait été le Real contre cette équipe, il y aurait eu peut-être 5-0.
Ouais.
Parce que comme souvent on voit en Espagne.
Oui.
Mais on en parle parce que c'est de Betis, c'est quand même une équipe de premier plan d'Espagne. Quoi.
D'accord. Mais je suis vraiment content du coup, que tu m'éclaires là-dessus. Et j'ai un autre cas pareil, bande professionnelle qui s'est passée ce week-end. Je crois que c'est le match Manchester United-Brighton. Pareil, un match qui décide le sort du match parce que je crois que le Manchester marque justement grâce à cette décision. L'arbitre siffle la fin du match. Finalement, on a dû lui dire à l'oreillette qu'il y a eu un épisode litigieux avant qu'il siffle. Il consulte la VAR et finalement, il accorde le pénalty pour Manchester United après avoir sifflé. Ça se fait, ça aussi ?
Alors moi, c'est, Kevin, tu sais, je suis un petit arbitre.
Oui,
donc,
je sais.
Donc là, tu me... Là,
c'est, je te bombarde.
Non, mais je vais te répondre...
Mais ça peut arriver dans le monde... Enfin,
alors, je vais te répondre ce que j'aurais fait moi à titre personnel.
Voilà.
Mais moi, tu me parles de match professionnel.
Oui.
Et alors, tout à l'heure, tu me parles du Real.
Oui.
Désormais, tu me parles de Manchester United. Donc, c'est-à-dire des équipes qui, une fois sur deux, ils sont champions de leur championnat respectif.
Oui.
Donc, si tu veux, encore une fois, c'est des clubs qui ont une audience importante.
Oui.
Donc, mais je vais te donner mon point de vue.
Je veux dire, il peut y avoir le cas quand même le week-end.
Alors,
dans un match amateur, tu siffles la fin du match. Finalement, tu as un petit doute et tu te dis, bah finalement, il y a peut-être faute et du coup, tu peux décider.
Alors
de,
moi,
de revenir sur ta décision.
Alors à partir du moment où tu mets un terme à une période,
donc
c'est-à-dire ou à la première période ou à la seconde période, à partir du moment où tu mets les deux coups de sifflet de la fin du match, normalement, dans la vraie vie, alors je te parle pourquoi de la vraie vie, la vie qu'on vit nous le week-end, tu reviens pas sur la... Alors après, au niveau professionnel, très probablement, si cet arbitre a pris cette décision, je suppose qu'il a droit de le faire.
Oui. D'accord.
Parce qu'à mon avis, les gens qui sont autour de la VAR, s'ils l'ont interpellé, c'est que... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la VAR, que nous, les cas... Par exemple, en France, qui nous permettent de consulter la VAR, est-ce que ce sont les mêmes qu'en Angleterre ? Ça, j'en sais rien.
C'est vrai, t'as raison.
Parce que je crois que d'un pays à l'autre, ils ne font pas. Alors, il y a homogénéité au niveau Ligue des Champions.
Ouais, Ligue des Champions.
C'est-à-dire que quand ils font la Ligue des Champions,
c'est pareil pour tout le monde.
Mmh. Mais je ne suis pas persuadé, alors il faudrait vérifier, mais je crois pas me dire des bêtises. D'un pays à l'autre, l'utilisation de la VAR n'est pas de façon homogène de partout.
D'accord, ok. Bah écoute, merci en tout cas Ziyad pour ces précisions. Alors je sais que c'est délicat, les questions qu'on pose, mais c'est des questions que moi, en tant que supporter ou amateur de foot, je me pose. Et je sais que le rôle de l'arbitre, c'est pas évident, mais c'est important d'avoir justement les vraies explications, les textes ou quelque chose de concret. Parce que chacun, finalement, se fait la propre interprétation des fois d'une règle des lois du jeu. Et je trouve que ça peut amener justement à des incompréhensions.
Alors moi, je salue le travail que tu fais dans cette radio parce que tu donnes la parole à 80% du football, c'est-à-dire le football du dimanche.
Oui.
Les 20% supplémentaires, c'est ce qu'on voit dans l'équipe tous les jours.
Oui.
Mais est-ce que c'est ça la vraie richesse ?
Oui, je suis d'accord avec toi.
Je veux dire... Moi, quand tu vois qu'un sportif de haut niveau, des joueurs, ça gagne 20 millions par an, je veux dire, le sportif lambda, il fait son SMIG. C'est ça qui fait la richesse de notre sport, quoi.
Oui, tout à fait.
Moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est vrai que le rôle de l'arbitre aujourd'hui, même à notre niveau, ça devient compliqué.
Oui, c'est vrai.
Comme on a pu le voir sur mon match de dimanche où... où la vidéo a été vue à plusieurs reprises, il y a plus de 500 commentaires.
Oui.
C'est bien, ça fait la richesse de notre sport. Et je pense que pour que notre sport, notamment la relation qu'on peut avoir, nous les arbitres, avec les joueurs et les entraîneurs, il faut être capable qu'on puisse discuter entre nous pour qu'on puisse se faire mieux comprendre et qu'on puisse avancer main dans la main.
Oui.
Parce que l'intérêt de chacun, c'est de prendre plaisir dans la fonction qu'il exerce. Quoi.
Tout à fait. Ben, moi, c'est une belle conclusion, je trouve, à notre interview, Ziyad. Merci, en tout cas, pour le temps que tu as consacré à cette émission, d'être revenu. En tout cas, tu es le bienvenu ici, Ziyad.
Ben, on met jamais 203.
Jamais 203, voilà. Hein.
Ben, écoute, je te remercie de ton invitation.
C'est
et
normal.
Dans la mesure du possible et de mon planning, si je peux venir... entre guillemets, apporter un éclaircissement à ton auditeur, tes auditeurs, j'essaierai de le faire du mieux que je peux.
Ben voilà. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne saison aussi, hein, parce que tu as rattaqué, comme tu l'as dit, justement, pied au plancher cette saison de foot. Et rien à foutre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes président, éducateur, arbitre, hein, comme Ziyad, bénévole, joueur, dirigeant ou même seulement simple supporter. Vous êtes amoureux du football, vous souhaitez parler de votre club, mais contactez-nous. Vous êtes les bienvenus dans cette émission parce que Rien à foutre, c'est votre émission. Rien à foutre est aussi présent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez bien évidemment écouter, réécouter tous les podcasts de l'émission Rien à foutre sur l'application radio-rks.fr ou alors éventuellement sur Spotify, sur Deezer. N'hésitez pas en tout cas, les podcasts sont disponibles. C'est la fin de cette émission. Encore merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente après-midi sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.